I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews Touchdown Actu de la saison NFL 2021. Un jour une preview, aujourd'hui on va parler des Indianapolis Colts. À mes côtés, Grégory Richard, bonjour.
Salut Alain, bonjour à tous.
Et Raoul Villeroy, pardon, bonjour.
Salut.
J'allais présenter deux fois Grégory Richard, je ne sais pas pourquoi. Cette émission qui vous est présentée par Wilson, vous connaissez probablement de Duke, le ballon officiel de la NFL, mais Wilson, c'est aussi le GST. C'est le ballon de foot US le plus avancé du marché, élaboré pour créer un grip optimal, et c'est le ballon le plus vendu aux États-Unis. Vous le retrouvez sur decathlon.fr, notamment. On remercie Wilson qui sera partenaire de toutes les dernières previews de la saison, donc les 9 dernières. Messieurs, les Colts, c'est 11 victoires, 5 défaites la saison dernière, et c'est un gros changement au poste de quarterback, évidemment. Carson Wentz est arrivé, Philip Rivers est parti, Eric Fisher est arrivé aussi, Sam Tevi, Julian Davenport, Chris Reed, Isaac Rochelle et Sean Davis, donc beaucoup de linemen offensifs qui ont circulé. Kwity Paye a été drafté en défense notamment. Ils ont aussi perdu Jacoby Brissett, Trey Burton, Anthony Castonzo, le left tackle, on va sûrement en reparler, Justin Houston en défense, Denico Autry, Anthony Walker et Malik Hooker. Raoul, est-ce que la question de la saison des Colts se résume à Carson Wentz or not Carson Wentz? Est-ce qu'il peut réussir à Indianapolis? Est-ce que les conditions sont réunies?
Je vais être obligé de prendre un peu d'avance sur cette preview en disant que c'est évidemment mon facteur X pour cette équipe des Colts. En y réfléchissant et en lisant un peu sur cette équipe-là, je me demande si c'est pas même aujourd'hui, à l'aune de cette saison 2021, le plus gros facteur X de la NFL, dans la mesure où je n'arrive pas à m'imaginer ce que va donner de manière un peu raisonnable, tu vois, Carson Wentz. Tout est possible. Aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que tout est possible. Il est très bien entouré. Il a un très bon jeu au sol. Il a des belles cibles avec lesquelles Philip Rivers n'a pas toujours réussi à tirer le meilleur. Je pense notamment à T.Y. Hilton. Donc, peut-être que lui peut y arriver. Il va être super bien protégé. Mais je n'arrive pas à me faire une idée du niveau qu'il est capable d'avoir et de ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe des Colts. Donc oui, effectivement, pour répondre à ta question, je pense qu'on peut résumer ça par Carson Wentz or not Carson Wentz. C'est assez rigolo d'ailleurs de se demander ce qui va être possible de faire, et cette équipe des Colts, pour ça, va être sympa à suivre cette année, je pense.
Greg, est-ce que tu es d'accord avec le plus gros point d'interrogation de la NFL? C'est vrai qu'on est sur un mec qui a quasiment joué comme un MVP à un moment au début de sa carrière, qui a été très mauvais avec Philadelphie l'an dernier au point de se faire mettre sur le banc pour un rookie, Jalen Hurts. On sait vraiment pas ce qu'on a dans les mains avec Carson Wentz, d'autant qu'il est blessé au moment où on enregistre et qu'on sait pas s'il sera prêt pour le début de la saison, pour le tout début, pour une semaine, pour deux semaines, on sait pas. Et c'est presque symbolique d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que même là, on est déjà dans l'incertitude.
Bah oui, alors c'est sûr que en fait le problème est... alors c'est un des principaux points d'interrogation, en effet, ça l'était avant sa blessure. En plus, c'est souvent des blessures un peu chiantes, hein, parce qu'on rappelle, c'est déchiré des ligaments croisés en 2017 lors de la fameuse fin de saison bouclée par Nick Foles, où il a jamais vraiment, à mon sens, retrouvé son niveau depuis. Enfin, en tout cas, le niveau qui en faisait un potentiel MVP à l'issue de cette saison 2017. Alors oui, il y a la raison de Peterson, etc., qui peut expliquer un head coach qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis et qui n'a pas forcément envoyé des bonnes ondes à l'ensemble de son groupe, hein, parce que je n'ai pas dans l'idée que ce soit que au poste de quarterback que les Eagles se sont un peu liquéfiés au fil des mois. Du côté d'Indianapolis, il arrive avec un environnement un peu plus sain, à mon sens, en tout cas suffisant pour recharger les batteries. On a vu que Philip Rivers, en étant en fin de cycle du côté des Chargers, du côté d'Indianapolis, s'il n'a pas fait que du mal, très clairement. Maintenant,
très, très bien.
Blessure au pied dès le début de la saison, c'est pas forcément. Ça te met pas dans les meilleurs auspices, on dira, pour réussir à commencer une bonne campagne. Après, le casting autour, il est globalement satisfaisant. Il y a un jeu au sol où on a clairement trouvé un running back numéro 1. Il y a pas mal de jeunes cibles au poste de receveur, encadrés par un T.Y. Hilton de retour et qui restait assez productif l'an dernier. Hein. Je revérifiais ses stats, c'est quand même 760 yards l'an dernier à la réception. Donc, on a déjà connu mieux de sa part, mais en tout cas, pour un receveur de 31 ans qu'on annonce sur la fin, ça reste assez performant et c'était le receveur le plus productif. Donc, c'est vrai que malgré tout, il y a quand même pas mal d'armes. Il y a cette blessure, en effet, de Quentin Nelson qui pose des problèmes.
Aussi, c'est vrai qu'il a la même blessure au pied que Carson Wentz, donc
voilà.
Même incertitude.
Mais on sait que depuis l'arrivée du nouveau régime à Indianapolis, la ligne offensive est une valeur sûre constante. Donc, on peut espérer, une fois qu'il sera de retour potentiellement pour les Colts, hein, parce qu'on a une fenêtre de tir assez large encore à l'heure où on se parle, on peut espérer quand même qu'il y ait des ingrédients pour lui permettre de faire avancer cette attaque et de permettre aux Colts d'être des candidats malgré tout au titre de division.
Alors, tu as avancé un point intéressant, celui de la ligne offensive. Est-ce que ta ligne offensive, c'est un cas d'école? Est-ce que ta ligne offensive est un point fort quand ton seul point d'interrogation, c'est le poste de tackle gauche? Parce que Anthony Castonzo est parti à la retraite.
Oui.
Et pour l'instant, en pré-saison, c'est compliqué pour ceux qui tentent de le remplacer. Eric Fisher a commencé sur la liste des blessés. Derrière, Will Holden, Sam Tevy se tire un peu la bourre, mais c'est pas fabuleux. Donc, est-ce qu'on peut dire la ligne offensive est excellente et c'est un point fort ou... Ce poste de tackle gauche pose quand même un problème, surtout avec un joueur fragile comme Carson Wentz.
Oh, c'est dur de dire que, enfin, c'est dur de la baisser à ce point pour un joueur. Oui, un joueur hyper important, mais le reste est tellement fort que en général ça pourrait être compliqué si ta ligne est bonne, mais pas ton tackle gauche. Là, je pense que le reste de l'escouade est suffisamment bon pour que ça puisse compenser un peu. Voilà.
Ok, Greg.
Bah, Eric Fisher, c'est forcément un gros point d'interrogation. Je pense qu'on le savait au moment où Castonzo a pris sa retraite. On savait que la position de tackle gauche serait déterminante. Ils ont choisi de miser sur un vétéran expérimenté comme Eric Fisher pour prendre le relais avec les risques que ça comprenait. Hein. C'est pas un hasard si les Chiefs s'en sont séparés l'an dernier. Donc, il y a du potentiel. Mais ouais, là, c'est sûr que si tu es en manque et de Fisher et de Nelson, ton côté gauche, il peut souffrir énormément. Et c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même O-line. Là aussi, j'anticipe par rapport à Raoul. Mais oui, là, on est quand même sur un beau et sur un bon gros facteur X.
Raoul, je sais plus qui a évoqué le sujet, mais c'est vrai que là, dans les points forts, par contre, on peut mettre le jeu au sol. Maintenant, on a un Jordan Taylor à plus de 1100 yards l'an dernier, Nyheim Hines pour l'aider. On est sur une équipe dont l'identité offensive est le jeu au sol maintenant.
Ouais, et tu mentionnes, moi j'aime bien Nyheim Hines, ce qu'il fait au-delà de ses célébrations très acrobatiques. Il apporte une vraie solution à un Jonathan Taylor qui est pourtant déjà très performant. Donc oui, ça aussi, ça va aller dans le sens d'aider Carson Wentz. Il va en avoir besoin ou pas. Encore une fois, on est dans l'incertitude à ce niveau-là, mais ça fait jamais de mal d'avoir un jeu au sol aussi rassurant en avance.
Juste en termes de, juste pour préciser par rapport à ce qu'on disait il y a deux secondes, c'est un gros point fort le jeu au sol. Je suis d'accord avec vous. On a vu quand même que sur le bloc, les coureurs, c'était pas la folie. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Si déjà l'environnement autour te permet de moins bien bloquer, va falloir que tes running back, et je parle bien sûr de Jonathan Taylor parce que Nyheim Hines a le physique qu'il a, mais on attend quand même peut-être un profil un peu plus précieux dans ce secteur-là, justement, pour exposer moins le quarterback.
Autre point fort, Raoul, on reste dans les tranchées parce qu'en défense, c'est un peu. C'est les lignes, en fait, le point fort de cette équipe.
Oui. Des lignes qui étaient déjà bonnes, mais qu'ils ont renforcé un petit peu, même si j'ai vu que Odeyingbo, tu me dis si je le prononce bien, Greg, toi qui es notre expert en prononciation, serait déjà un peu blessé aussi. Maintenant, oui, c'est en tout cas l'identité qu'on a voulu donner dans les tranchées. Il y a DeForest Buckner, bien sûr, à l'avant, qui va faire du bien. Moi, derrière lui, Darius Leonard, j'ai toujours été assez fan aussi. Et globalement, cette défense des Colts, de manière générale, t'as une bonne colonne vertébrale qui fait que tu peux t'appuyer dessus.
Deuxième au sol, hein. Deuxième contre le sol l'an dernier. Donc, clairement, on a une équipe qui est solide des deux côtés. Pourquoi ça va perdre? En tout cas, pourquoi ils ont 31 chances sur 32 de ne pas aller au bout?
Et difficile de donner un. En fait, je disais avant, cette défense, elle est. Disons, tu peux t'appuyer dessus et tu as une bonne colonne vertébrale. En l'occurrence, je pense à Buckner, Leonard et derrière Xavier Rhodes. Maintenant, à voir ce que ça va donner autour d'eux, c'est un peu ces équipes dont on parle de temps en temps dans les previews, de dire que c'est pas des no-names, mais c'est un groupe de joueurs qui ensemble fait une meilleure somme que la somme des individualités, si vous me suivez. Et voilà, est-ce que le groupe va être capable de tenir? C'est une division qui est normalement à leur portée. On parle beaucoup, bien sûr, hein, de Carson Wentz en attaque, mais il va falloir que la défense permette aussi à l'attaque de rester dans le match. Je pense qu'ils en sont capables. Est-ce que c'est le cas sur tous les matchs qu'ils vont disputer cette saison? Il va falloir voir sur la durée.
Greg,
Hormis l'attaque, si on reste juste sur la défense, le pass rush. Je parlais dans un précédent podcast du départ de Justin Houston. C'est quand même pas totalement anodin. Et c'est vrai que je faisais pas partie des grands fans de Kwity Paye, leur premier tour de draft en avril dernier. Je pense qu'il aura peut-être besoin d'un petit peu de temps. Raoul parlait en effet de Odedigbo tout à l'heure également, pour qui ça va être un petit peu compliqué dans un premier temps. Donc ouais, va falloir être capable de générer quand même de la pression. Plus globalement, ouais, je ne sais pas si les tranchées cette saison seront vraiment un point fort, que ce soit en attaque ou en défense.
Ok, ah oui, alors pourquoi?
En attaque par rapport à ce qu'on évoquait, oui, et en défense par rapport au problème de pass rush.
Moi, j'avoue que c'est plus même le manque de profondeur en défense qui m'inquiète, au sens où la couverture aérienne repose sur Xavier Rhodes, qui a 31 ans et qui a quand même connu un petit bas à un moment avant la saison dernière où il se reprend bien. Mais
Kenimon est solide quand même. Hein.
Oui, mais... ils sont 20e contre la passe l'an dernier. Je vois pas d'énorme renfort non plus. Donc voilà, c'est pas en tout cas c'est pas un point fort pour moi. Et tu le disais, si le pass rush est pas à la hauteur, la couverture pourrait encore un peu souffrir. Donc c'est comme là, on est vraiment dans des équipes qui commencent à être très hautes. Par rapport à leurs ambitions, c'est un point faible pour moi la couverture aérienne des Colts.
Après, je t'avoue, c'est pour moi, ça a été un petit peu entre guillemets, un crève-cœur de trouver un point faible dans cette défense, parce qu'on a vu que depuis qu'il est arrivé, Matt Eberflus arrive à faire des miracles avec cette squad où il n'y a pas forcément que des méga stars depuis qu'il est là. Donc, je me dis que les Colts peuvent trouver des solutions, mais va quand même falloir se creuser la tête, je pense.
Factor X, Raoul.
J'ai dit Carson Wentz, le Factor X pour moi de la NFL ce début d'année.
Greg.
Au-delà du QB, la O-line. Je pense que peu importe le QB en place, surtout vu les profils, si la ligne n'est pas capable de tenir un minimum, ça va être une saison très longue pour les Colts.
Je rappelle quand même les cibles. On a parlé de T.Y. Hilton, Paris Campbell, Michael Pittman, Jack Doyle et Michael Strachan, qui est annoncé comme une terreur au camp d'entraînement depuis le début de l'intersaison. Donc voilà, à surveiller aussi. Puis il y aura des armes. Du côté du calendrier des Colts, on commence face à Seattle. Alors, deux réceptions pour commencer. Donc, Seattle, les Rams. Ensuite, ça a trois déplacements contre les Titans, Dolphins, Ravens. Ensuite, ça joue Texans, San Francisco à l'extérieur, Titans, Jets, Jaguars, Bills à l'extérieur, Buccaneers, Texans à l'extérieur. Repos en semaine 14, les Patriots, les Cardinals à l'extérieur, les Raiders et les Jaguars à l'extérieur. Il y a pas mal de matchs qui sont quand même à leur portée. C'est pas ils sont pas dans une division ultra dure. C'est-à-dire qu'ils ont Houston et Jacksonville deux fois.
Ça aide.
Donc ça fait quand même quatre matchs largement à leur portée. Après, tu vois, Seattle, Rams et Titans pour commencer, je suis pas sur le cul s'ils commencent à 0-3, quoi.
Non, moi non plus, même si peut-être qu'après deux défaites face aux Titans, ils seront un peu plus remontés, d'autant que c'est un peu plus à leur portée. Du coup, pourquoi pas gagner celui-là? Je suis d'accord avec toi que le fait d'ajouter les Texans et les Jaguars deux fois dans l'an va les aider. Et moi, je les vois aller chercher 11 victoires pour 6 défaites. C'est assez haut, mais parce que... Voilà, je dis il y a 4 victoires prises. Sur les autres, je les vois bien aller en chercher. Il y a 7 qui sont jouables. Pas toutes, peut-être, mais j'ai envie d'y croire un peu et peut-être que la mayonnaise Carson Wentz va finir par prendre et que la fin de saison peut être un peu meilleure aussi.
Greg, tu as été aussi étonné que moi par le pronostic.
Ouais, je me suis dit, il va me faire une analyse de sourcils encore.
Non, parce que je suis d'accord.
Alors, tu disais à raison s'il commence avec 0-3. Franchement, s'il commence à 0-5, je suis pas surpris non plus. Hein.
Oui, parce que derrière, c'est Miami et Baltimore. Donc, ça peut
même faire 5. Et puis, 3 matchs à l'extérieur après avoir reçu le Seattle et Los Angeles, vu la situation actuelle et les blessures que tu as sur des postes clés en attaque. Franchement, c'est une équipe qui a souvent démontré de la ressource depuis l'arrivée de Frank Reich. Je peux difficilement aller au-dessus de 8-9 pour l'instant. Franchement, tout ne me rassure pas et ça a l'air d'être une grosse année de transition, surtout avec les pépins qu'ils rencontrent actuellement. Je leur souhaite vraiment de me tromper, mais pour l'instant, j'y vais avec une fiche de 8-9 avec un début de calendrier qui s'annonce un peu tumultueux.
Eh ben, je voulais savoir si j'étais le moins optimiste, et c'est le cas, parce que moi, je suis même à 7-10.
Ouf !
Ça se joue entre les deux.
Non, mais tu vois, Carson, ça commence déjà très mal pour Carson Wentz. Et donc, derrière, moi, je suis d'accord. Je pense que ça commence ça va commencer à 1-4 ou à 0-5. Hein. Donc, ça, je sens que celui-là, on va me le ressortir.
Mais Factor X, du coup, méga infirmerie, quoi.
Ben, aussi, c'est ça, quoi.
Donc, parce qu'on t'annonce quasiment que des trucs de 4 à 12 semaines. Donc, malheureusement, pour faire une projection sur ce que ça peut donner concrètement sur des matchs un peu couperés, c'est délicat.
Ouais. C'est ça. Donc, moi, je suis franchement Seattle, Los Angeles, Tennessee, Miami, Baltimore, dur. San Francisco, dur. Tennessee, à nouveau, dur. Jets et Jaguars pour leur donner du répit. Les Bills et les Buccaneers derrière. Même New England face à un coach comme Belichick, difficile. Arizona, c'est pareil, ils sont en dessous sur le papier pour moi. Et Raiders, Jaguars pour terminer. Mais je pense que à ce moment-là, ils seront déjà plus dans la course au playoff. Hein, donc ouais, moi je vais être sur 7 pour cette équipe d'Indianapolis.
Bon ben, je les ai jinxés, voilà.
Ah non, mais peut-être que tu auras raison contre tous. Hein.
Ça serait beau. Du coup,
peut-être que Raoul nous annonce l'arrivée de Marcus Mariota à Indianapolis.
Peut-être.
Et que du coup, ça explose.
Sur la troisième
Le trade en milieu de saison. Ouais.
C'est ça, sur la troisième rechute de Carson Wentz. C'est comme ça que se termine la preview des Colts. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous rappelle que l'émission du jour vous était présentée par Wilson et son ballon, le GST, le ballon le plus avancé du marché avec son grip optimal que vous pouvez retrouver sur decathlon.fr. Vrai bon ballon, hein, on l'a en main parce qu'on l'a pour un concours, on va vous en faire gagner un sur le site, et vraiment très très cool avec les bandes blanches là, hyper agrippantes, très très intéressant. Moi je lance pas très bien,
mais avec ça tu lances
déjà mieux. On vous remercie donc encore une fois de nous écouter. Vous retrouvez les previews par écrit sur TD Actu avec le point de vue d'un autre rédacteur, pour nous suivre sur les réseaux sociaux à TD Actu sur Twitter et Facebook, Touchdown Actu en entier sur Instagram, et on l'a dit, tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raoul, et à très bientôt pour une nouvelle preview. Ciao ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.